Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre a appelé vainement les syndicats à annuler la grève des transports prévue ce jeudi. Un cinquième des bacheliers tchèques a échoué aux examens de la nouvelle maturita et puis enfin au football, la République tchèque affronte l'Espagne pour son deuxième match au championnat d'Europe Espoir. Le Premier ministre Petr Nečas a appelé ce mercredi les syndicats à annuler la grève des transports prévue pour ce jeudi. Selon le chef du gouvernement, cette grève n'apportera rien de positif et ne peut entraîner que des dommages. Les représentants des syndicats qui protestent contre les réformes envisagées par le gouvernement et notamment la réforme du système de retraite ont toutefois fait savoir qu'ils ne fléchiraient pas et ne reviendraient pas sur leurs décisions. La grève des transports commencera donc dans la nuit de mercredi à jeudi et durera 24 heures. Aucun train ne circulera dans tout le pays, tandis que les transports en commun à Prague, Brno, Ustina nad Labem, Olomouc et Avirjov seront fortement perturbés. À Prague, le métro notamment restera hors service toute la journée. La grève qui sera donc organisée ce jeudi par les syndicats des transports dans toute la République tchèque sera probablement suivie aussi par les syndicats d'autres branches de l'économie tchèque. Il pourrait se joindre également les syndicats d'établissements scolaires et d'entreprises industrielles, les deux plus grandes centrales syndicales du pays, la Confédération tchéco-morave des unions syndicales et l'Association des syndicats indépendants ont décidé de soutenir la grève des syndicats des transports et de coordonner leurs activités. D'autres organisations syndicales soutiendront la grève dans des gares et des arrêts de transport. Public. Et puis pendant cette grève, les clients de l'aéroport de Prague seront transportés par des bus qui feront la navette entre l'aéroport et les stations Prague-Zličín et Prague-Davidce. En entrant dans le bus, les passagers seront toutefois obligés de présenter leur billet d'avion. Une déclaration faite par le porte-parole de l'aéroport de Prague. Pour assurer ce service, l'aéroport dispose de 5 bus. La rapidité des transports dépendra cependant de la situation sur les routes qui risque d'être bloquée par la grève des transports. L'aéroport n'est pas obligé de proposer aux passagers ce service. Les municipalités tchèques pourront désormais réguler le nombre de machines à sous sur leur territoire grâce à des directives spéciales. Jusqu'à présent, c'était le ministère des Finances qui délivrait les autorisations et licences nécessaires, ce qui rendait difficile la tâche des municipalités souhaitant limiter les barrageux, dit Erna, en République tchèque. La Cour constitutionnelle a soutenu une plainte de la ville de Chvástava qui menait depuis longtemps une bataille dans ce sens. Un cinquième, soit près de 20% des bacheliers tchèques qui ont planché sur les nouvelles épreuves du baccalauréat ont échoué à cet examen qui clôt le cycle secondaire. Côté résultats, ce sont les élèves d'écoles spécialisées et de centres d'apprentissage qui s'en sont le plus mal sortis. Un rattrapage des épreuves sera organisé d'ici la fin septembre. L'idée d'un bac conditionnel, comme souhaité par le ministre de l'Éducation, ne plaît pas du tout aux universités qui refusent le principe de faire passer des examens d'entrée des élèves qui n'ont pas encore leur diplôme de fin d'études. De manière générale, l'ensemble des épreuves de ce nouveau bac national a plus suscité le rejet que l'approbation, tant du côté des enseignants que du côté des lycéens. On passe au sport. Après avoir battu l'Ukraine 2-1 dimanche, l'équipe de République tchèque de football affronte l'Espagne ce mercredi soir à Viborg, au Danemark, à l'occasion de son deuxième match de groupe, comptant pour le championnat d'Europe Espoir, c'est-à-dire des moins de 21 ans. En cas de nouvelle victoire, les jeunes tchèques seront qualifiés pour les demi-finales du tournoi, avant même leur troisième match de groupe contre l'Angleterre dimanche. On termine avec un mot de météo ce mercredi, jour de la fête des Vites. Le ciel en République tchèque est variable à nuageux avec quelques rares pluies et les températures varient entre 22 et 26 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Tout de suite, retrouvez Anna Kubishta. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Un programme très culturel aujourd'hui puisqu'on commencera par le détail de la programmation du 46e Festival international du film de Carlo Vivari qui approche à grands pas. Puis on parlera de théâtre puisque jeudi est donné le coup d'envoi de la Quadriennale de Prague, un rendez-vous très attendu du monde des planches et de la scénographie, un événement qui s'étale sur une dizaine de jours en tout. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, à moins de 3 semaines du coup d'envoi du 46e Festival International du Film de Carlo Vivari, l'essentiel de la programmation est bouclé et l'on sait déjà les noms de quelques stars à voir cette année dans la station balnéaire du nord-ouest de la Bohème. Judi Dench, John Turturro, John Malkovich ou encore István Csabó ou Goran Bregovic pour n'en citer quelques-uns. Eva Zaharova, désormais conseillère artistique du festival depuis que son collègue Karel Hoch a repris le flambeau, nous en dit plus sur le seul film français de la compétition principale.
Bon, alors c'est un film assez étrange, assez extraordinaire, parce que c'est un film où on ne parle pas, il n'y a pas de dialogue, mais c'est pas un film muet, parce qu'il y a des sons, il y a bien sûr aussi de la musique. Mais c'est un film conçu et réalisé par Pascal Rabaté. Et Pascal Rabaté, comme j'ai appris, il est un auteur assez reconnu des comics. Donc, il a fait ce film-là d'après son livre de comics. Et alors, je me souviens de mon enfance, des bandes dessinées qui existaient quand j'étais petite. Alors, peut-être que c'est une tradition en France. Mm-hmm. Mais bon, mais retournons au film.
Et donc, Pascal, c'est un film très visuel, alors, du coup.
Oui, et Pascal Rabaté, il a déjà réalisé un autre film avant celui-là qui s'appelait Petit Russo. Et c'était un film aussi réalisé à la base de son livre de bande dessinée. Et il a eu beaucoup de succès. Et donc, alors j'ai demandé qu'on me fasse voir le film, parce que le film, originalement, le titre, c'est « Ni à vendre, ni à louer ». Et je trouve que c'est un titre assez extraordinaire qui peut attirer l'attention à un film extraordinaire.
Comme chaque année, vous allez à Cannes pour ramener des films de Cannes. Alors, quels films de Cannes seront à voir à Carlo Vivari cette année?
Nous avons Le Haver, le film fait par Aki Kaurismäki en coproduction avec Finlande. Mais nous avons aussi le film de Bruno Dumont, Hors Satan. Et nous avons le film des frères Dardenne,
Le garçon au vélo.
Et nous avons, je ne me souviens pas s'il y a un autre film français dans notre programme. Il y a beaucoup de films coproduits, parce que Habemus Papam, c'est un film coproduit avec la France, mais c'est l'italien.
Il y a un film de Nanni Moretti.
De Nanni Moretti, oui.
D'accord. Et puis vous avez aussi le film de la Palme qui a reçu la Palme d'Or, quand même.
Oui. Alors il y a le coproducteur français dans le film qui a reçu la Palme d'Or, oui.
L'Arbre de vie de Terrence Malick.
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors dans le cadre du festival, vous présentez aussi en première mondiale la version restaurée de Markéta Lazarová, qui est un des chefs-d'œuvre du cinéma tchèque des années 60. Comment s'est déroulé cette restauration, et puis est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot justement sur ce film?
Non, nous avons cherché un sponsor pour la restauration numérique de ce film-là. Heureusement, nous l'avons trouvé, alors nous espérons que ça sera la première étape d'un procès qui va continuer, parce que de cette façon-là, on peut peut-être restaurer les films tchèques vraiment éminents. Parce que vous savez, Markéta Lazarová, c'est un des films tchèques qui sont très connus parmi la critique française, par exemple. Je me souviens que Marcel Martin, qui était rédacteur de Écran et qui était président de la Fédération internationale des critiques de cinéma, il m'a parlé explicitement de Markéta Lazarová en disant que c'est un des meilleurs films qu'il a jamais vu, des films historiques qu'il a jamais vu. Et il a admiré beaucoup la musique de ce film. La musique de ce film était composée par Zdeněk Liška, qui était vraiment un compositeur, un musicien extraordinaire. Et je crois qu'il est très connu même en France. Il n'a pas composé seulement la musique pour les films.
Juste pour terminer, quel est le film d'ouverture et le film de clôture du festival cette année?
Cette année, le film d'ouverture, c'est Jean Eyre, parce que nous avons la personnalité que nous voulons primer au festival, et c'est Judi Dench.
Qui va recevoir le Globe de Cristal.
Oui, qui est dans le film. Et pour la fin, pour la clôture, nous avons le film de Woody Allen qui a ouvert le festival de Cannes, Midnight in Paris.
Une soixantaine de pays représentés, une centaine de journalistes étrangers accrédités, la Quadriennale de Prague commence ce jeudi à Prague. Cette exposition mondiale consacrée aux arts vivants se déroule dans la capitale tchèque tous les 4 ans depuis 1967. Pour parler de cette édition 2011, Alexis Rosenzweig est allé poser quelques questions à Nathalie Franck qui s'occupe de la communication internationale de l'événement.
Bonjour Nathalie Franck, alors on s'était vu il y a quelques mois déjà et cette fois-ci ça commence vraiment, c'est donc ce jeudi que commence la Quadriennale de Prague, c'est un événement international qui a lieu comme son nom l'indique tous les 4 ans. Est-ce qu'on peut commencer par expliquer pourquoi les gens devraient venir à la Quadriennale cette année?
Pour faire simple et pour être bref, je pense que les gens devraient venir à la Quadriennale parce que c'est un événement mondial qui a lieu à Prague une fois seulement tous les 4 ans et qui est vraiment l'occasion de voir tout ce qui se fait de meilleur en très résumé en théâtre mondial qui vient de 62 pays, 5 continents. Donc pour voir ce qui se fait dans le théâtre d'aujourd'hui, je pense que la Quadriennale de Prague, c'est le meilleur endroit cette année.
Alors théâtre et scénographie plus particulièrement, je crois.
Plus particulièrement, effectivement, puisque la Quadriennale de Prague s'intéresse à l'aspect visuel du théâtre, donc la scénographie, dans un sens très large qui comporte les décors des scènes, ainsi que les costumes, les lumières, les sons, etc.
Alors, où est-ce qu'on peut aller voir ce qui sera exposé ou ce qui va se jouer dans la capitale tchèque pendant ces 10 jours?
Alors, il y a beaucoup d'endroits dans le centre de Prague. Vous pouvez trouver la carte complète de l'événement sur www.pq.cz. On a une Google Map. Mais les endroits principaux pour la Quadriennale de Prague, ce sera d'abord cette exposition mondiale dont j'ai parlé, qui a lieu principalement à la Galerie Nationale de Prague et aussi pour sa partie architecture à l'église Sainte-Anne. Ainsi qu'un projet commissionné spécial pour cette édition 2011, les Box, qui ont lieu à la Piazzetta devant le Théâtre National.
Entre le Théâtre National et ce qu'on appelle la Nouvelle Scène. Donc les touristes également ne pourront pas le manquer. Alors il y a ces principaux événements et puis il y a plusieurs projets qui sont, comme vous l'avez dit, un peu partout dans la ville. Et notamment des projets de jeunes artistes, notamment de jeunes artistes hongrois dans le quartier de Florence.
Oui, alors donc dans les projets particuliers à cette édition 2011, donc en plus de cette Piazzetta qui sera vraiment une installation vivante qui invite 30 artistes du monde entier dans une installation vraiment particulière d'architecture temporaire vraiment intéressante que je conseille à tout le monde d'aller voir donc sur cette Piazzetta. On a aussi quelques spectacles en plus, comme le spectacle du groupe hongrois Krétakör par le metteur en scène Arpad Schilling qui aura lieu à Florence. Et il s'agit d'une installation basée sur des vidéos, des performances par des performateurs qui viennent de toute l'Europe. Et ça permet aussi aux gens de découvrir les bâtiments de l'ancienne imprimerie du Rode Pravo qui sera bientôt détruit après cette performance qui aura lieu les 22, 23 et 24 juin.
Le Rode Pravo qui était l'organe de presse officiel du Parti communiste dans la Tchécoslovaquie sous le communisme. Est-ce que, Nathalie Franck, les spectateurs peuvent participer activement à la Quadriennale de Prague?
Oui, du coup j'en profite pour inviter les Pragois et non-Pragois qui veulent participer activement à la Quadriennale de Prague, puisqu'on a invité une metteur en scène allemande, Claudia Bossé, à préparer une grande intervention urbaine qui aura lieu le 21 juin et qui consistera dans une de ses parties en un cortège silencieux sur la rue Pagiska, donc une des rues principales de la vieille ville de Prague, un cortège de gens qui chuchotent dans un spectacle intitulé « Les larmes de Staline », enfin « Tears of Staline ». Si vous voulez participer, c'est encore possible puisqu'on compte sur 500 personnes pour chuchoter. Et il suffit pour cela de participer aux 3 répétitions qui auront lieu avant. La première répétition aura lieu le 16 juin à 17h30 dans le quartier de Holešovice. L'adresse exacte se trouve sur notre site internet pq.cz.
Et je précise que si ça s'appelle les larmes de Staline, c'est parce que c'est organisé sous l'esplanade de l'Etna où il y a eu cette fameuse statue de Staline. Nathalie Franck, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà, tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission avec la rubrique Histoire. Les médias peuvent représenter un enjeu politique, ça, ce n'est pas nouveau. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, la radio joue un rôle de poids dans ce domaine. Ce sera également le cas dans la Tchécoslovaquie de la normalisation avec les radios étrangères diffusées illégalement dans le pays. Un sujet proposé par David Allon.
Chapitre de l'histoire.
En juillet 1960, la Tchécoslovaquie devient officiellement la République socialiste tchécoslovaque, la seule à porter cette dénomination avec l'URSS. Et pourtant, les apparences sont alors bien trompeuses. Car au moment où le pays semble s'aligner de plus en plus sur le grand frère russe, la société, elle, commence à décrocher. Comme nous le rappelle Pavel Pekacek, journaliste à Radio Europe Libre, Radio Liberté, pendant les années 1970.
Bylo to skutečně v 60. letech.
C'est vraiment à partir des années 1960 que des tendances à la libéralisation sont clairement apparues dans la Tchécoslovaquie communiste. Ce nouveau courant a également touché des personnes qui s'étaient d'abord inclinées face au pouvoir. En effet, ils voyaient que l'impopularité du régime grandissait chaque jour un peu plus.
Protože cítil, že jeho neobliba velice roste.
Et comme tout le monde le sait aujourd'hui à travers le monde, la Tchécoslovaquie a essayé en 1968 de construire un socialisme à visage humain, selon la désormais célèbre expression. Bien sûr, cela n'a pas marché et je pense que cela ne pourra jamais marcher. Le socialisme à visage humain me semble incompatible avec le communisme.
Ta lidská tvář nějak do toho nepasuje.
De toute façon, après la chute du printemps de Prague, le socialisme reprend un visage plus inhumain en Tchécoslovaquie. La période de la remise au pas succède au temps des illusions. Et alors que dans les années 1950, le régime exécutait, dans les années 1970, il utilisait l'arme sociale. Pavel Pekacek.
Samozřejmě normalizace byla úplně jiná než období.
Bien sûr, la période de la normalisation à partir de 1969 n'avait rien à voir avec celle de Dubček et de ce qui avait précédé l'occupation de la Tchécoslovaquie. La plupart des gens avaient peur, beaucoup essayaient de s'adapter, mais je ne leur jette pas la pierre. Il était très difficile de s'opposer au régime quand ça lui tenait, par exemple, l'avenir de vos enfants dans ses mains. Pour les parents compromis politiquement, impossible de placer leurs enfants dans une école supérieure ou à l'université. Pour le régime, c'était juste un exemple parmi d'autres, des menaces qui pesaient sur les gens qui n'approuvaient pas la normalisation.
Pavel Pekacek dirigea durant les années 70 la section tchécoslovaque de Radio Europe Libre, la célèbre radio américaine. Il ne vivait donc pas dans le pays, mais il était mieux placé que quiconque pour voir l'impact des radios étrangères sur le régime. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, une guerre des armes mais aussi des mots, que la radio commence à jouer un rôle crucial en termes de propagande. Qu'il soit démocratique ou totalitaire, tous les pays en guerre l'utilisent. Et ce ne sera pas différent dans la Tchécoslovaquie des années 1970, et le régime aura fort à faire pour lutter contre l'écoute clandestine des différentes radios occidentales, Radio Luxembourg, AFN Munich, Autofahrung Unterwegs à Vienne et bien sûr Radio Europe Libre.
L'arme privilégiée du régime contre la diffusion de Radio Europe Libre et les autres stations étrangères, c'était tout simplement leur suppression. Parfois, les autorités étaient très efficaces à ce petit jeu, mais les Tchèques ont alors pris l'habitude d'aller au chalet à la campagne, une spécialité tchèque encore bien vivante. Les petites mains du régime n'arrivaient pas jusque-là. Ils écoutaient donc Radio Europe Libre le week-end principalement.
A tak lidé poslouchali hledali svobodnou Evropu hlavně o víkendech. A našli si místa, kde to poslouchat šlo lépe, našli si...
Il existait des endroits où l'on pouvait mieux capter. Il y avait aussi des radios qui étaient construites avec beaucoup d'ingéniosité, équipées pour recevoir les radios étrangères dans les grandes villes comme à Prague. Pour écouter Radio Europe Libre, le mieux était de passer par Radio Soviet. Le régime avait très peur de l'écoute des stations illégales.
Zabraňovalo lidem v poslechu, protože režim se toho poslechu strašně bál. Strašně bál.
Et c'est cette peur du régime qui rendra celui-ci parfois dangereux envers les journalistes tchèques basés à l'étranger. Basé à Munich, sous le communisme, Pavel Pekáček nous confie les menaces qui pesaient sur lui et sa famille.
Ty pseudonymy, které jsme měli, já měl nejdřív Petr Horák,
j'ai moi-même porté plusieurs pseudonymes. À Radio Europe Libre, c'était Petr Horák et à La Voix de l'Amérique, c'était Pavel Skála. Ce n'était pas vraiment pour notre propre défense, bien qu'il y ait eu aussi des attaques sur nos vies. Non, c'était d'abord pour nos familles qui étaient restées en Tchécoslovaquie. Le but, que la police oublie peu à peu notre vrai nom, afin que nos proches ne soient pas inquiétés. Il pouvait cependant arriver que le régime découvre qui se cachait derrière tel pseudonyme.
Přece jenom ten pseudonym to někdy překryl.
Cette conscience du danger ne rendit Pavel Pekáček pas seulement prudent, mais également sage. Et juste avant la chute du communisme, il fera preuve d'un sens de la retenue salutaire.
Já jsem třeba říkal svým zaměstnancům ve Svobodné Evropě, když se blížil...
Alors que les événements de novembre 1989 se sont rapprochés, j'ai dit à mes collègues, informés, et ne faites que ça, ce sont les Tchécoslovaques qui doivent se décider seuls sur la base de vos informations. En aucun cas, nous ne devons provoquer ou tenter de hâter les événements. C'est à eux de le faire. Et je leur ai aussi dit, la meilleure propagande, c'est la vérité.
C'est avec cette rubrique Histoire que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague. Tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet le www.radio.cz/fr, en podcast, en streaming, mais également en article retranscrit. Merci de votre fidélité. Bon vent.